Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Tout va bien ?
Tout va bien, toujours fidèle au souffle de l'esprit.
Oui, on essaie. Reprenons si tu veux bien le catéchisme. Et là, on est actuellement au numéro 689. On lit « Quand le Père envoie le Fils, il envoie toujours son souffle ». Il semble donc que le Fils et l'Esprit Saint soient très liés l'un et l'autre.
Oui, il y a une mission conjointe, comme dit le catéchisme, c'est-à-dire que rien ne peut se faire ad extra de la Trinité sans qu'il y ait action commune du Père qui envoie. Et Jésus d'ailleurs s'y réfère souvent. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il au jour de la résurrection. Donc il y a bien une continuité totale entre sa mission de fils et notre propre mission d'apôtre et successeur des apôtres et jusqu'à nous qui sommes les fidèles du corps du Christ, les fidèles de Jésus-Christ qui continuons son action. L'Église, c'est dans le fond Jésus-Christ continué, prolongé, dirait Bossuet. Et il y a donc inséparation entre l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et particulièrement, les deux missions divines qui sont celles du Fils et du Saint-Esprit, qui nous rejoignent, nous montrent la collaboration des trois personnes divines, cette action commune qu'ils réalisent ensemble et cette mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint, dit le catéchisme de l'Église catholique, sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Donc il y a vraiment une entière collaboration et je ne pourrais pas, si vous voulez, inventer une sorte de théologie des religions dans laquelle il y aurait d'un côté une théologie du Saint-Esprit et puis de l'autre côté une théologie ecclésiale de Jésus-Christ avec l'Église qui serait une des options dans le fond pour être sauvé. Et on pourrait avoir plein d'autres options parce que ce serait des théologies du Saint-Esprit. Il faut récuser fermement cela et nous savons que le pape Jean-Paul II a été très attentif, lui qui a débuté une action missionnaire extraordinaire dans le monde par tous ses grands voyages apostoliques, puis ses grands textes qu'il a publiés d'exhortations apostoliques sur les cinq continents, Ecclesia in Europa, Ecclesia in America, Ecclesia in Africa, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Oceania. Tous ces grands textes ont montré qu'il avait un souci permanent de l'action du Saint-Esprit dans le monde. Et que cette action donc montrait bien qu'on ne devait pas limiter l'Église à seulement la visibilité institutionnelle des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont marqués par le baptême dans l'Église catholique. Il y a une action qui, bien sûr, dépasse cette visibilité, mais en même temps qui attire à elle. Nous sommes tous orientés à l'Église catholique. C'est ça le grand message du Concile Vatican II, c'est que l'Église est un don de Dieu, un don du Saint-Esprit qui permet à Jésus-Christ d'être présent le plus possible, mais en même temps, il y a une ordination à ce corps du Christ. Et donc les hommes et les femmes de bonne volonté du monde entier, qu'ils appartiennent à une religion ou pas, qu'ils soient seulement des hommes de conscience de bonne volonté ou qu'ils appartiennent à une religion non chrétienne, sont ordinatur ad, c'est-à-dire ordonnés à l'unique Église du Christ qui subsiste dans l'Église catholique, dit le Concile Vatican II. Et donc de ce point de vue-là, la mission de Jésus-Christ est entièrement connexe à la mission du Saint-Esprit, qui joue son rôle, évidemment, pour ordonner à les personnes qui sont encore extérieures à cette Église. C'est le Saint-Esprit qui attire à l'Église. Et malheureusement, il y a des cas où on doit le regretter. C'est pour cela que l'Église fait pénitence régulièrement, parce que des fois, le témoignage n'est pas assez bon pour que les gens aillent jusqu'au bout de cette attirance. On se souvient du grand Mahatma Gandhi, qui avait été très admiratif de Jésus-Christ, très admiratif de son évangile, mais qui disait, au contact de l'église anglicane qu'il rencontrait en Inde, eh ben, ça ne me dit pas, moi, de passer le Gange, en quelque sorte, de franchir, comme on dirait en Terre Sainte, de franchir le Jourdain pour suivre Jésus. Eh bien, donc, il est resté en dehors de l'Église catholique, mais il y avait en lui un désir de vivre la vérité des évangiles et de le mettre en action dans son pays, même si, bien sûr, il n'a jamais fait le pas vers cette adhésion. Il ressentait comme une ordination à. Et c'est ça où on voit l'action du Saint-Esprit, qui est très invisible dans les cœurs, mais qui suscite des désirs, qui suscite des attirances, qui suscite des souffles dans les cœurs pour tout à coup agir de telle et telle manière et finalement se christo-conformer un jour. Et dans le fond, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est une christo-conformation, c'est-à-dire on devient conforme au Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit tout seul qui est capable de le faire.
Alors justement, pour approfondir ce lien entre le Fils et l'Esprit-Saint, le numéro 690 propose une notion intéressante. Il rappelle que Jésus est le Christ, ça veut dire en grec celui qui est oint, et que l'Esprit est l'onction. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce lien étonnant entre le oint et son onction?
Alors, il faut se souvenir que Messie en grec, c'est Christos, et Christos, c'est la traduction de Machiar, qui est loin. Donc Jésus, quand il réclame ou quand il est désigné par ses apôtres comme étant vraiment le Messie et qu'il reconnaît que c'est bien lui, il se place comme celui qui est loin. Et de fait, le jour du baptême, qu'est-ce qui se passe de baptême du Christ dans le Jourdain? Eh bien, il y a une descente du Saint-Esprit avec une déclaration par la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le ». Donc il y a vraiment une reconnaissance que Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit qui est symbolisée sur la forme de la colombe au moment du baptême, mais au moment de la transfiguration, pareil, c'est la même voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et là, le Saint-Esprit apparaît, non pas sous une forme de colombe, mais avec la nuée qui recouvre le Fils et aussi le corps de gloire de Jésus. Parce que souvent, l'Esprit-Saint est appelé comme l'Esprit de gloire. Et c'est une belle expression de la tradition que l'on trouve, par exemple, jusque dans Saint-Pierre. Saint-Pierre, dans sa célèbre épître, sa première épître, nous parle de l'esprit de gloire en parlant du Christ. Heureux si vous êtes outragé pour le nom du Christ, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc il y a une sorte de lien intime entre Kavod, la gloire de Dieu, et l'esprit. Et on comprend très bien à ce moment-là que ce lien entre les trois peut être signifié à travers la thématique de l'onction. Nous avions rencontré au numéro 438, c'est bon de faire de temps en temps des petits rappels, car tous les numéros du catéchisme, évidemment, se tiennent. C'est pas parce qu'on les lit dans un ordre d'incrémentation rapproché qu'il faudrait oublier les numéros anciens. Au contraire, il faut les rappeler de temps en temps. Cette belle parole de saint Irénée qui nous disait donc au numéro 438, c'est ce qu'indique le nom de Jésus lui-même, le Christ, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père. Celui qui a été oint, c'est le Fils. Et il l'a été dans l'Esprit qui est l'onction. quelle magnifique parole de saint Irénée. Donc c'est dans le Adversus Aereses, hein, dans ce grand texte qu'il a livré, qu'il en est tout premier texte de réflexion, je dirais, théologique, chrétienne, de l'histoire de l'Église, puisque on pense que saint Irénée est mort un peu après l'an 200. Et l'Adversus Aereses, donc, qui nous donne ce texte dans la troisième partie, donc, sur le traité 18 et numéro 3. Et donc, il y a dans cette caractérisation du travail du Saint-Esprit quelque chose qui nous fait comprendre que tout doit être finalement dans l'onction, puisque celui qui oint, c'est le Père, celui qui est oint, c'est le Fils, et que l'Esprit, c'est l'onction. Et un jour, Saint François d'Assise avait fait cette expérience extraordinaire d'avoir été donné un baiser à un pauvre, un lépreux, et il avait eu après une révélation de Jésus qui était venu lui parler. Et Jésus lui avait fait comprendre que il était passé dans ce baiser. Le Saint-Esprit était dans ce baiser, dans cette onction.
Le numéro 690, de fait, précise que l'onction, donc c'est de l'huile qu'on met sur la peau, et il y a un lien très fort entre l'huile et la peau. Et donc, on comprend le lien entre Esprit Saint et Fils, qui est l'onction et le oint, un lien très fort et qu'on ne peut pas enlever. L'huile, on ne peut pas l'enlever, surtout quand elle pénètre la peau. Très bien.
Oui, de fait, il y a quelque chose de très mystérieux, mais de très beau dans cette utilisation de l'huile permanente à chaque fois qu'il y a un sacrement avec de l'huile, qui nous rappelle que l'Esprit est l'onction. Merci.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt.